Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Eh bien aujourd'hui, on s'envoie en l'air avec le professeur Pierre Denis de l'Université de Caen, spécialiste de médecine spatiale et qui vient de créer un nouveau master. Il va nous dire entre autres pourquoi la médecine de l'espace sert la médecine sur Terre. Plus proche de nous, et d'ailleurs même à l'intérieur de notre corps, l'étude de notre microbiote, notre flore intestinale qui va révolutionner la médecine en devenant un véritable pilier thérapeutique. Hervé Affagard, directeur général et cofondateur de Mat Pharma, est heureux d'annoncer la fin de la construction de la plus grande usine exclusivement dédiée aux médicaments microbiote, en particulier dans le cancer. Enfin, ce petit génie a remporté un des grands prix Check-up Santé cette année avec son application Juicy qui propose de faciliter l'accès à la littérature scientifique grâce à l'intelligence artificielle. C'est Robin Roumingas et il est avec nous dans Check-up Santé. Check-up Santé, c'est parti. Pierre Denis, bonjour.
Bonjour Fabien.
Merci d'être avec nous. Vous venez de Caen, c'est ça ? Vous êtes professeur de physiologie médicale à l'université de Caen, dont vous avez été président, et vous lancez le premier master SpaceMed, dont on va parler dans quelques instants. Avant d'en parler, comment définissez-vous la médecine spatiale ?
Bien, la médecine du spatial, c'est à la fois une médecine, on va dire, une médecine du travail. Hein. Donc,
un travail très particulier, quand même.
Très particulier, donc, ouais. Qui concerne assez peu de personnes. Mais c'est, il faut suivre médicalement ces astronautes, en particulier quand ils sont en mission, mais aussi quand ils reviennent, participer à leur entraînement, à leur sélection, et puis définir des normes et des processus. Oui. Et de l'autre côté, la médecine spatiale participe de manière puissante à la recherche spatiale, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus sur des effets de l'espace sur le corps humain, et la médecine spatiale est au premier rang de des acteurs scientifiques dans cette...
Oui, cette médecine de l'espace, elle est en pleine croissance, en pleine évolution. Il y a de plus en plus, c'est ça, de missions spatiales ?
Oui, tout à fait. On est en fait au milieu d'une révolution de l'industrie spatiale. Hein, faut pas avoir peur des mots. À la fois qui voit une chute considérable des coûts de lancement, mais également une augmentation de l'activité. Alors pas seulement des acteurs étatiques traditionnels, hein, avec l'apparition de nouveaux acteurs comme l'Inde par exemple, mais aussi et en fait surtout de ce qu'on appelle
des acteurs privés. Donc
oui, le new space. Voilà. Donc les acteurs privés qui se contentent plus de répondre à des appels d'offres, mais qui également sont des acteurs autonomes. Voilà. Et on pense éviter à des grosses sociétés comme SpaceX, mais il y a une myriade de start-up hein, très très innovantes. Récemment, là, il y a quelques semaines, The Exploration Company, une start-up franco-allemande, a remporté un contrat de plus de 100 millions de dollars avec Axiom Space. D'accord. Pour ravitailler leur future station. Ça explose vraiment.
Il y a combien d'astronautes dans le monde ?
Alors, 150 astronautes actuellement, donc ils sont tous à peu près des astronautes étatiques, entre guillemets, mais très probablement d'ici une dizaine d'années, ça va être multiplié par 10. Hein.
Est-ce qu'en France, on est bien placé dans cette médecine spatiale ?
Alors, on est pas mal placé, hein, donc il y a des acteurs plus importants. En Europe, il y a l'Allemagne qui consacre beaucoup de moyens, mais oui, il y a beaucoup de... on bénéficie d'infrastructures grâce au CNES, il y a la clinique spatiale du MEDES, il y a beaucoup d'universités, Bordeaux, Angers, Lyon, Caen, qui font des travaux de premier plan.
Ouais. Est-ce que c'est facile de contrôler la santé d'un astronaute à distance ?
Alors, justement, ça c'est une des retombées de la médecine spatiale. Ça a été la participation à tout ce qui a été télémédecine, hein, le progrès, donc des capteurs connectés, des téléconsultations. Beaucoup de ce qui se fait actuellement sur Terre a bénéficié de ce qui a été mis au point pour l'espace.
Oui. Ouais. Alors, dites-nous alors donc les effets de l'environnement spatial. Vous dites que on peut le comparer à un vieillissement accéléré et réversible.
Alors, oui.
Quand on est dans l'espace, donc on se.
Oui. Alors les effets d'un voyage spatial sur la santé humaine ou sur la physiologie du corps sont encore pas complètement mal écrit, encore moins complètement compris, mais
effectivement... C'est assez violent quand même, c'est assez violent, non ?
C'est assez violent, et pour aller sur Mars, ce sera encore plus violent, parce que il y aura en plus les radiations, voilà, qui est une des grandes inconnues. Donc, certains de ces modifications, oui, correspondent à ce qu'on peut observer dans un vieillissement. Heureusement, réversible pas toujours complètement, hein, mais en particulier sur les os. Mais effectivement,
en fonction de la durée, c'est ça, c'est ça.
Oui, sur la durée. Pour les os, il y a une perte osseuse qui dépend de la durée passée dans l'espace, qui est incomplètement prévenue, mm-hmm. hein, et puis qui est incomplètement réversible en fonction des personnes. Donc c'est un des axes de recherche, justement, les facteurs individuels, en particulier génétiques, qui expliqueraient les différences.
Entre un risque cardiovasculaire aussi.
Oui, alors il y a des altérations cardiovasculaires qui sont, elles, pas complètement comprises, mais parmi les mieux comprises, et qu'on peut assez bien prévenir maintenant.
Donc, du coup, donc, cette étude de la médecine spatiale, ça a des retombées sur la santé humaine tout court, quoi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des slogans de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, hein, la vie dans l'espace pour la vie sur Terre. Donc, c'est à la fois un modèle de certaines pathologies, par exemple l'inactivité, hein, parce que bien entendu, les recherches que l'on fait, on les fait pas toutes dans l'espace, parce qu'il y a pas assez peu d'astronautes, comme on a vu, mais on les fait dans ce qu'on appelle les analogues spatiaux. Donc, on laisse des personnes dans un lit pendant des semaines. Voilà, et donc, ça permet de voir des.
Oui, on parle beaucoup d'ostéopause. C'est un des effets secondaires les plus fréquents.
La fonte musculaire, etc.
La fragilité des os, etc. Donc, vous avez lancé donc le premier master SpaceMed.
Oui.
Je crois que c'est le unique au monde.
Il est unique au monde pour l'instant.
Oui. Donc, ce master, donc, il sera à Caen.
Alors, c'est un master Erasmus Mondus. Hein. Mm-hmm. Donc, le principe, c'est qu'il doit y avoir au moins 3 universités associées. Donc, le premier semestre à l'université de Caen. Deuxième semestre, ça sera à la Charité, qui est une université médicale, complètement médicale, à Berlin, associée à Humboldt Université. Mm-hmm. Troisième semestre à Ljubljana, en Slovénie. Le quatrième semestre, ça sera un stage de recherche ou dans une entreprise.
Donc, d'accord. Et donc là, vous allez former des experts.
On va former des experts. Alors, à la fois.
Des médecins du travail.
Alors, on a trois.
Il n'y a pas que des médecins d'ailleurs.
Non, on veut répondre à 3 besoins. Le premier besoin, la recherche. Qui les agences spatiales financent beaucoup de recherches depuis un certain nombre d'années, dans la perspective en particulier sur Mars. Donc des chercheurs, des médecins, donc à la fois pour le suivi médical, la sélection et pour en charge des touristes, et puis des ingénieurs biomédicaux en charge de la conception, l'amélioration de ce qu'on appelle tout le support vie, voilà, tout ce qui aide l'homme, qui permet à l'homme de vivre dans l'espace ou dans un environnement très hostile.
Vous avez beaucoup de candidatures ?
Alors, le master n'est pas encore ouvert, ça sera dans un an, mais on a déjà, alors que c'est pas, il n'y a pas eu d'annonce officielle, on a déjà
une vingtaine. On a donc la primeur dans Check-up Santé, alors ?
En France, oui.
Oui. Donc, il y a pas mal de candidatures et peu d'élus, j'imagine. Hein,
oui, alors, ce sera des promotions de 20-25 personnes, parce qu'il y aura beaucoup de travaux pratiques et puis surtout d'études sur le terrain. Donc, on va aller dans la montagne, dans les grottes, la plongée. Voilà, donc, c'est forcément des petits groupes. Et, typiquement, ce genre de master, on attend 3000 candidatures par an. Mais parce que c'est très actif, parce que les étudiants reçoivent une allocation assez assez intéressante.
Est-ce que pour finir dans le domaine du spatial, de la santé évidemment spatiale, est-ce qu'on collabore avec pas mal de pays?
Oui, c'est une recherche qui est internationale. Donc, on a la chance d'avoir, nous en France, le Centre national d'études spatiales, voilà, qui finance des recherches. Mais l'ESA, l'Agence spatiale européenne, finance également. Donc, c'est des projets collaboratifs. Oui. On collabore beaucoup avec les Américains, les Japonais. On collaborait beaucoup avec les Russes, mais pour l'instant, tout est en arrêt.
Les Émirats arabes unis aussi, non?
Oui, ils financent beaucoup l'exploration spatiale, et ils souhaitent se positionner justement dans la physiologie spatiale. Voilà. Donc on a des discussions en cours sur le.
Donc les Russes ne sont pas, font pas partie évidemment.
Non, de toute façon c'est.
Et avec la Chine, avec l'Inde.
Alors l'Inde, pour l'instant, eux, ce qui les intéresse, c'est les fusées, les satellites, pas tellement l'homme dans l'espace. La Chine, eux, ils mettent les paquets, mais dans le domaine de la physiologie, de la médecine spatiale, c'est assez, c'est assez fermé, on va dire. Voilà.
Merci beaucoup Pierre Denise. créateur de l'unique master SpaceMed à l'université de Caen. On va passer de l'espace à notre intestin avec Hervé Afagar, directeur général et cofondateur de Mad Pharma.
BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Hervé Afagar, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes le directeur général et cofondateur de Mad Pharma qui a été créé en 2014. Vous êtes basé à Lyon. D'ailleurs, merci de venir de Lyon pour assister à l'émission. C'est déjà une entreprise qui roule. Vous avez plus de 60 collaborateurs.
Absolument. Maintenant, on est plus de 60 collaborateurs. J'ai commencé tout seul. Maintenant, il y a 59 qui m'ont rejoint.
Alors vous êtes, votre société est carrément leader dans le domaine du microbiote, surtout en particulier en oncologie. Il y a longtemps qu'on s'intéresse au microbiote.
En fait, le microbiote a vu le début de sa période, je dirais, phare à partir des années 2010, où on a pu utiliser les méthodes utilisées dans le décodage du génome humain, qui ont été ensuite appliquées au génome bactérien, ce qu'on appelle le métagénome. Et c'est vraiment là, à partir de 2010, où d'abord le monde académique, puis ensuite l'industrie, a vraiment... Donc on a un jeune adolescent de à peine 14 ans.
Alors justement, donnez-nous une définition simple hein, du microbiote. On dit microbiote, microbiome.
En fait, les deux. Le microbiome, c'est l'expression du potentiel génétique du microbiote. D'accord. Donc bien souvent, on utilise l'un ou l'autre. Le microbiote, c'est un écosystème tout simplement qui va être constitué de bactéries, de fongiques, de parasites, de tous ces micro-organismes qui vivent en symbiose. Non seulement en symbiose entre eux, les parasites, les virus, les bactéries, mais aussi en symbiose avec l'individu, avec notre partie humaine, la partie hôte, et notamment c'est le microbiote qui va stimuler l'activité du système immunitaire, par exemple. En termes quantitatifs, le microbiote intestinal, parce qu'il y a le microbiote cutané, le microbiote vaginal, le microbiote oral,
Notre flore intestinale, quoi.
Notre flore intestinale, c'est environ 250 espèces bactériennes, pour donner des éléments, c'est environ 600 000 gènes, c'est environ 1,5 kg. On vous le retire, vous avez 1,5 kg de moins.
D'accord, mais...
Donc c'est quand même massif et très central pour la santé et le bien-être.
Donc on a tous un microbiote personnel, évidemment, qui est différent des autres, hein, c'est ça ?
On a un microbiote personnel puisque, en fait, c'est une série de colonisations. Quand on est stérile, et en fonction de si on vit à la campagne, si on est né par césarienne ou par voie basse, on va avoir une série de colonisations.
Donc, en fonction de différents facteurs ?
En fonction de différents facteurs qui sont très peu génétiques et beaucoup environnementaux, on va avoir un microbiote qui est le nôtre, effectivement.
Environnemental et aussi notre alimentation ?
Bien sûr.
Elle joue beaucoup ?
Bien sûr, elle joue beaucoup. Le mode de vie, l'alimentation joue beaucoup.
D'accord. Et donc, quand ce microbiote est perturbé, c'est une porte ouverte vers différentes maladies.
Exactement.
Pas seulement immunitaires ou
Pas seulement immunitaires, mais c'est vrai que beaucoup de maladies auto-immunes et en relation avec le système immunitaire, comme Parkinson, Alzheimer, maintenant trouvent des associations avec l'état de votre microbiote. Et effectivement, ce qui va altérer le microbiote, c'est principalement les antibiotiques. Ça, c'est un vrai fléau pour le microbiote. Ouais. Et dire qu'un microbiote est altéré, c'est par exemple une façon de l'expliquer, c'est qu'il perd en diversité. En moyenne, vous avez 250 espèces bactériennes. Si vous avez 180 espèces bactériennes et en plus des mauvaises bactéries comme des bactéries pro-inflammatoires, c'est là où on va parler de dysbiose, en fait.
D'accord. Et comment peut-on agir pour le modifier, l'améliorer, le régénérer ?
Il y a plusieurs façons de le régénérer. On peut apporter des compléments avec des cocktails de bactéries qui sont des bactéries commensales, c'est-à-dire qu'on a récupéré dans la flore intestinale humaine, rien à voir avec les probiotiques en pharmacie qui peuvent être d'origine végétale ou autre. Donc, on peut apporter des compléments sur des dysbioses, des déséquilibres qui sont mineurs, mais on peut le remplacer complètement, ce qui est ce que nous, on fait chez Mad Pharma, où là, on va reconstruire un microbiote intégral pour obtenir certaines fonctionnalités, notamment quant à l'activité du système immunitaire.
Donc, vider l'intestin de tout son microbiote pour le remplacer par un autre.
Exactement.
D'accord. Grâce à des produits, grâce à des produits physiques, grâce à des...
Donc, on a
éventuellement
deux
des lavages.
On a deux types de produits en fonction de l'intensité de la maladie. Sur certaines maladies, on doit intervenir vite. Notre développement le plus avancé, on est sur des taux de survie à deux mois de 20%. Donc, on est sur une situation très aiguë. Là, on va avoir une approche dite par enema. C'est une administration rectale d'un produit extrêmement dense. Donc, on fait un lavage. On met l'enéma et on recolonise l'intestin de cette manière-là. Sur des pathologies un peu moins sévères, on va avoir des capsules, comme n'importe quel autre médicament.
Ok, donc votre actualité quand même, c'est la finalisation de la construction de votre usine.
Oui, on n'est pas peu fiers parce que...
À côté de Lyon ?
À côté de Lyon, à Saint-Quentin-Fallavier, avec notre partenaire Sky Pharma. Donc c'est un montage un petit peu intelligent entre un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique qui fait du manufacturing, de la production, et nous qui apportons toute la compétence sur les process biologiques.
C'est la première usine en Europe ?
Pour l'Europe, c'est la première usine qui va travailler justement sur ces modalités de remplacement intégral. Donc c'est 1600 m², deux étages. Je vois que c'est projeté. On a toute la production au rez-de-chaussée et puis toute la R&D à l'étage. Donc c'est la plus grande usine et on va pouvoir servir, y compris sur le plan commercial, tous les marchés que l'on vise.
Donc vous développez, vous produisez et vous commercialisez même des médicaments, même relativement complexes.
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui,
C'est l'oncologie.
Voilà, c'est l'oncologie. On est en milieu de phase 3, donc la commercialisation pourrait l'attendre d'ici 2-3 ans environ. Néanmoins, nos médicaments sont déjà disponibles sous forme d'accès compassionnel. Et donc, on est capable, on le distribue déjà aujourd'hui. On a des demandes qui vont du Brésil jusqu'à l'Inde. Et on sert plusieurs pays internationaux. Donc on a un centre de distribution, on a développé tous les process de logistique. On a tout développé, on est prêt.
D'accord, donc l'étude du microbiote, c'est devenu maintenant un véritable pilier thérapeutique, quoi.
Absolument, de plus en plus. Mm-hmm. Nous, on a de plus en plus de demandes de patients qui arrivent avec leurs résultats de microbiote, un peu comme vous auriez une formulation sanguine, en disant, voilà, j'ai vu que j'avais des mauvaises bactéries, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, effectivement, c'est en train d'exploser. Je pense que ça a besoin d'être canalisé, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du B2B, donc la revente indication thérapeutique n'est pas toujours évidente, il faut quand même faire des essais. Donc il y a énormément de demandes. Moi, mon pari, c'est que dans 2-3 ans, tous les patients, avant de recevoir un traitement, on regardera l'état de leur microbiote.
Donc on pourra faire un test de son microbiote.
D'ici 2-3 ans, ça sera disponible. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dessus. Ouais.
Et qu'on pourra faire en laboratoire d'analyse.
Il aura une validité clinique et de mon point de vue, il sera disponible dans tous les laboratoires de biologie médicale. Ça, c'est sûr.
Pour finir, vous avez des collaborations avec l'industrie pharma ou parce que c'est vrai qu'elle a peut-être été un peu frileuse au départ, non ?
Elle est un petit peu frileuse.
Elle est toujours
en Europe, ouais. Mm-hmm. Aux États-Unis, par contre, il y a plus de questions à se poser. Il y a beaucoup de partenariats qui ont été noués. Les grands français n'ont pas encore fait le pas. On voit AstraZeneca ou d'autres en Europe qui ont pu faire des choses dans nos domaines. Nestlé en Suisse en a fait énormément. Donc on sent que c'est en train d'arriver, mais en Europe on est un tout petit peu en retard.
Bon, en tout cas, merci pour ce sujet vraiment passionnant. Merci Hervé Affagard, directeur de Math Pharma. On va à présent accueillir Robin Roumingas et avec son appli qui cartonne Juicy.
BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Robin Roumingas, bonjour.
Bonjour Fabien Guez.
Vous êtes le parisien de l'émission aujourd'hui.
Absolument.
Alors, vous êtes le CEO et cofondateur de Juicy et vous avez d'ailleurs remporté un des trophées Check-up Santé cette année. Est-ce que ça vous a été utile ou pas ?
Ouais, ça nous
très
a
franchement.
Fait... Non, ça nous a été utile. Ça nous a aidé à gagner en visibilité. Ouais. On a également gagné récemment le prix de l'innovation en santé remis par l'APHP et l'ISNI à l'hôpital Hôtel-Dieu. Tous ces prix, évidemment, nous aident à la fois en termes de visibilité et en termes de valeur.
Notoriété et crédibilité, bien sûr.
Et crédibilité, absolument.
Alors, évidemment, c'est intéressant de connaître l'évolution de votre bébé depuis cette année. Juste d'abord, une définition un petit peu de votre appli Juicy qui permet évidemment de faciliter donc la lecture de la littérature, c'est ça, scientifique ?
Ouais, absolument. L'objectif de Juicy, c'est de rapprocher d'un côté la recherche et de l'autre la pratique réelle de la médecine. En effet, la recherche évolue de plus en plus vite. Et donc, on va chercher cette recherche directement dans les labos de recherche, dans les hôpitaux, dans les universités, dans les journaux, dans les revues scientifiques. Et derrière, on va processiser l'ensemble de ces informations. On va les mouliner, les digérer pour les rendre plus assimilables auprès des praticiens afin de servir au mieux les patients.
Parce qu'on dit que les infos qui arrivent, c'est exponentiel.
Tout à fait.
Double tous les 73 jours, vous disiez.
C'est ça, d'après une étude. Donc, ouais. On utilise le pouvoir de l'intelligence artificielle pour automatiser de bout en bout la veille de la littérature scientifique et distiller, disséminer des informations médicales qui sont fiables, recommandées, actualisées auprès des professionnels de santé de manière générale.
Et comment vous est venue cette idée alors que vous n'êtes pas professionnel de santé à la base ?
Non, moi j'ai passé 6 ans en Chine, puis un peu moins de 3 ans aux États-Unis et puis évidemment du temps en France. Et ce problème de rester à jour de rester informé. Je l'ai constaté partout dans le monde. J'ai cofondé des start-up précédemment dans la santé également. Et donc, c'est avec, malheureusement, la crise du Covid qu'on a décidé de se lancer avec d'autres médecins et chercheurs pour aider la communauté médicale à rester plus facilement informée.
Donc le Covid vous a un peu aidé là, en quelque sorte, vous a un peu boosté ou pas ?
Ça a été un déclencheur, puisque la recherche s'est également accélérée pendant cette période-là, et également le besoin pour tout professionnel de santé d'accéder à une information médicale fiable et actualisée.
Donc l'appli, donc elle est disponible sur tous les smartphones ?
Sur tous les smartphones, sur tous les Apple, stores, l'App Store, Google Play, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite, et elle le restera. Ouais. Ça c'est la mission qu'on s'est fixée, démocratiser l'information médicale au plus grand nombre. Ouais. Elle est d'abord destinée à la communauté médicale, aux professionnels de santé. Et donc là on se trouve à un moment charnière.
Aux professionnels de santé globalement ou
au sens large, pas que les médecins, pharmaciens.
D'accord, professionnels de santé donc.
Professionnels de santé au sens large. Et donc on se trouve à un moment charnière puisqu'on passe de Juicy 1.0 à Juicy 2.0, où on emmène l'ensemble de notre communauté médicale composée aujourd'hui de 130 000 professionnels de santé partout dans le monde.
Donc vous avez 130 000 professionnels qui se sont inscrits sur votre
appli. Qui sont actifs sur l'application mobile, qui viennent des États-Unis jusqu'à l'Australie, en passant par l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est.
Quand vous dites actifs, c'est plutôt passif, puisqu'ils vont recevoir, ils lisent les revues.
Ils sont actifs dans le sens où ils se connectent sur l'application mobile. Bien sûr. Mais vous avez raison, en effet, la vision de Juicy, c'est d'apporter la science aux utilisateurs et non plus l'inverse. Et donc pour cela, aussi bien l'expérience que les algorithmes qu'on a développés derrière vont permettre de pousser une information médicale, encore une fois, qui est fiable et recommandée pour permettre à ces utilisateurs de rester à jour en 5 à 10 minutes tous les jours.
D'accord. Et cette IA, donc, elle permet de personnaliser encore plus donc les informations.
Ouais, alors dans la chaîne de valeur, il y a différents modèles de NLP, Natural Language Processing, et de Machine Learning qui vont agréger un certain nombre de contenus, qui vont les résumer automatiquement, qui vont les traduire aujourd'hui de l'anglais vers le français, et ça c'est un vrai plus pour nos amis francophones, pour assimiler des informations qui sont souvent complexes et de haut niveau. Et puis enfin, on va les recommander pour faire gagner un maximum de temps. Ça c'est notre IA qu'on a développée depuis le tout début. On a d'ailleurs récemment une équipe d'experts du CHU de Nice et de l'hôpital d'Antibes qui ont réalisé une comparaison entre notre IA et une recherche manuelle traditionnelle pour effectuer une revue systématique de la littérature.
Oui, il n'y a pas photo, ça peut le dire.
Les résultats, c'est que notre IA a été pertinente à 48% versus 17% dans la recherche manuelle en termes des contenus qui ont été relevés, et surtout beaucoup plus rapide puisque l'IA a mis 25 minutes contre plus de 10 heures pour l'équipe d'experts sur un sujet donné.
Alors, ce que vous proposez, parfois, évidemment, ce sont des études complètes et parfois des digests, un peu plus que les abstracts, puisqu'il y a pas mal de revues, de publications scientifiques qui sont payantes.
Ouais, alors nous, ce qu'on fournit, c'est toujours des digests. Mm-hmm. C'est les synthèses. La proposition de valeur, c'est aider à être un aide à la découverte de contenus scientifiques et médicaux à travers des contenus courts. Donc, les publications, les études cliniques qui sont présentes sur Juicy, ça va être des résumés qui reprennent les sections clés, du background à la conclusion. Et récemment...
Et après, libre aux utilisateurs, après, d'aller...
Avec toujours un lien de redirection pour aller vers la publication originale s'ils le souhaitent et rentrer plus dans les détails, en effet. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on a lancé un nouveau champ de l'intelligence artificielle qui permet de transformer une publication PDF de 10, 15, 20 pages en une vidéo en format court, qui va reprendre l'essence de la publication.
Vidéo ou podcast ?
En format vidéo. D'accord. Et on pense que ce format complémentaire des précédents, écrit et podcast, va être un véritable accélérateur dans la démocratisation de la consommation de la littérature scientifique, puisqu'on le sait aujourd'hui, tout le monde, et notamment les professionnels de santé, ont un intérêt dans des formats vidéo qui sont informatifs ou éducationnels pour rester à jour.
Et une des nouveautés aussi, c'est que vous permettez aux utilisateurs de proposer des contenus ?
Voilà, en tout cas de partager leur perspective, leur point de vue, leur analyse sur des publications qui sont peer-reviewed ou sur des contenus médicaux.
Donc ça devient vraiment une plateforme communautaire ?
On y entre progressivement. La proposition de valeur au départ, c'était d'informer et de mettre à jour la communauté médicale. Aujourd'hui, on souhaite donner une voix à cette communauté médicale pour qu'elle apporte également son analyse, sa lecture critique, son point de vue sur l'ensemble de cette littérature scientifique. Et donc, on rentre progressivement dans des fonctionnalités.
Et juste quelques secondes pour parler de vos partenaires.
Ouais, alors on travaille avec plusieurs sociétés savantes. La SFRO, qui lance son congrès dans les prochains jours autour de donc la radiothérapie oncologique. On lance également avec la SFR en radiologie. On travaille avec un certain nombre de CHU comme le CHU de Nice ou le CHU de Dijon. Et puis on travaille également avec des entreprises des sciences de la vie. On travaille avec Biocodex en épilepsie rare pour créer de l'awareness, de la visibilité, sensibiliser autour des sujets en épilepsie rare et notamment du syndrome de Dravet.
Bravo, malgré votre succès, vous ne pourrez pas être élu l'année prochaine hein, comme vainqueur des trophées. Merci Robin, merci beaucoup.
Merci beaucoup Fabien.
C'est la fin de cette émission, on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.